Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Les actionnaires de Stellantis approuvent à une très grande majorité le salaire du patron Carlos Tavares, près de 37 millions d'euros l'an dernier. Les syndicats du groupe automobile dénoncent une rémunération exorbitante. La Russie, finalement invitée aux cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Normandie, mais sans Vladimir Poutine, les organisateurs des commémorations reprochent au président russe sa guerre d'agression en Ukraine. Quelle stratégie syndicale face à l'extrême droite? Plusieurs syndicats européens en ont débattu ce matin à Paris, alors que le vote nationaliste existe aussi chez leurs adhérents. Le dossier de Wafia Kenich dans cette édition. Enfin, nous reviendrons sur la possible vente de l'hebdomadaire Marianne. Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský, propriétaire du magazine, serait mécontent de la ligne souverainiste de la directrice de la rédaction, Natacha Polony. C'est une victoire pour Carlos Tavares. Les actionnaires de Stellantis ont validé cet après-midi la rémunération du directeur général du groupe automobile. 36,5 millions d'euros pour l'année 2023. Un vote sans appel. Plus des deux tiers des actionnaires ont approuvé ce très gros chiffre qui figure dans le rapport financier annuel de l'entreprise. Stellantis, né de la fusion de PSA et de Fiat Chrysler, a dégagé l'an dernier un bénéfice record. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas Vazak.
Les syndicats du groupe jugent indécente la rémunération de Carlos Tavares.
En votant majoritairement oui, à 70% pour une rémunération de 36,5 milliards d'euros, les actionnaires de Stellantis sont tenus à apporter leur soutien à Carlos Tavares, notamment pour la stratégie mise en œuvre, mais aussi pour les résultats records réalisés l'année dernière avec un bénéfice de 18,6 milliards d'euros. Des bons résultats qui s'expliquent aussi par la hausse du prix des véhicules, mais également par une compétitivité poussée à l'extrême, comme nous l'explique Benoît Verdier, délégué central CFDT.
La course à la compétitivité, en fait, on essaye d'avoir les sites les plus performants possibles et ça se traduit par une réduction des frais de structure pour tout optimiser, des investissements qui se font de façon très ciblée et très regardée. Par contre, ce qui rend les conditions de travail difficiles, c'est les réorganisations et parfois des activités qui passent en externalisation et qui ne sont plus faites en interne. Et ça, c'est très difficile à vivre pour les salariés qui étaient sur un job qui est externalisé et qui doivent se retrouver un travail en interne.
De son côté, le directeur général de Stellantis assume complètement cette rémunération en expliquant qu'il faut la comparer à celle de ses homologues aux États-Unis où Stellantis réalise la plupart de ses bénéfices. Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir au sein même de la classe politique. C'est ainsi que Boris Vallot, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, a indiqué qu'il allait redéposer un projet de loi de 2020 pour limiter le salaire des grands dirigeants d'entreprise.
Hakim Kasmi, merci. Tous les pays alliés contre le nazisme seront invités aux célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, y compris la Russie. La mission Libération, chargée d'organiser l'événement le 6 juin prochain, l'a annoncé aujourd'hui avec une nuance importante. Les Russes sont conviés, mais pas leur président. Vladimir Poutine exclut des commémorations en raison de sa guerre d'agression en Ukraine, selon les termes de la mission. Héloïse Roger, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Les organisateurs du 80e anniversaire ont estimé qu'il était difficile de ne pas reconnaître le rôle de la Russie dans la chute de l'Allemagne nazie.
La Russie sera invitée pour que l'importance de l'engagement et des sacrifices des peuples soviétiques, ainsi que sa contribution à la victoire de 1945, soit honorée. C'est ce que précise la mission Libération. Historiquement, la France a toujours invité à la cérémonie les pays dont les contingents ont débarqué en Normandie, précise le groupement d'intérêt public. Pour le cas de la Russie, la dernière fois que Vladimir Poutine était présent, c'était au 70e anniversaire du débarquement, en 2014. Aux côtés de François Hollande, et cela malgré l'annexion de la Crimée quelques mois auparavant. Je n'oublierai jamais que le peuple russe a donné des millions de vies pour que nous soyons libres pendant tout ce combat, avait témoigné l'ancien président de la République. À ce moment-là, Vladimir Poutine avait échangé pour la première fois depuis plusieurs mois avec les présidents de l'époque des États-Unis et de l'Ukraine, Barack Obama et Petro Poroshenko. Cette fois-ci, 10 ans plus tard, compte tenu de ces circonstances, explique la mission Libération, le président russe ne sera pas invité à participer aux commémorations commémoration. Mais malgré la guerre actuelle menée par la Russie en Ukraine, il est impossible de ne pas reconnaître le rôle crucial de l'URSS dans la défaite de l'Allemagne nazie. Près de 27 millions de soviétiques sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le moment, aucune précision n'a été donnée sur la présence de la Russie sans son président à ces commémorations en Normandie en juin prochain.
Héloïse Roger, merci. En Ukraine, cette guerre d'agression russe s'intensifie dans le Donbass. Les soldats de Moscou grignotent du terrain à l'ouest de Bakhmout. Ils menacent désormais la ville de Tchassifiar. Les Ukrainiens manquent d'armes et de munitions. L'indispensable aide militaire américaine est gelée en raison du blocage orchestré par les républicains de Donald Trump. Mais la situation pourrait évoluer cette semaine. Le Congrès doit se prononcer sur deux textes, l'un sur l'Ukraine et l'autre sur Israël. Loïc Loury nous appelle de New York.
Financer notre allié israélien et soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre l'agression russe, c'est l'objectif, dit Mike Johnson, le patron républicain de la Chambre, de deux propositions de loi qui seront examinées, promet-il, cette semaine. Après des mois de blocage autour de l'aide militaire envoyée à Kiev, cette annonce du speaker est le signe d'une avancée, et même si la route reste incertaine jusqu'à un vote en bonne et due forme. En guise de stratégie, Mike Johnson a choisi de faire voter non pas une, mais quatre proposition de loi, une enveloppe pour l'Ukraine, une autre pour Israël, une troisième pour Taïwan, et enfin un paquet de mesures populaires chez les conservateurs pour leur faire avaler la pilule, avec entre autres des sanctions contre l'Iran et, certains élus l'affirment, l'interdiction du réseau TikTok. Cela sera-t-il suffisant entre des Trumpistes qui ne veulent pas entendre parler d'aide à Kiev et une aile gauche démocrate réticente à l'idée d'armer Israël, le tout dans une chambre à la majorité républicaine très fragile. Mike Johnson, lui, joue certainement dans cette histoire son avenir au perchoir.
Loïc Loury, correspondant aux États-Unis. L'Iran ne sortira pas indemne de son attaque contre Israël, affirme aujourd'hui le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari. Depuis hier, l'État hébreu promet une riposte à la vague de drones et de missiles lancés sur son territoire ce week-end, mais il réfléchit toujours à la nature de cette riposte. Les États-Unis et la communauté internationale appellent à la modération, à la désescalade pour éviter l'embrasement du Proche-Orient. Et la question divise aussi la population israélienne. Le reportage à Jérusalem d'Alice Foussard.
En Israël, rien n'a changé, tout est revenu à la normale. Cette Israélienne, Ayala, a eu peur seulement dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu'elle a vu cette pluie de missiles et de drones dans le ciel. Mais nous sommes surtout très heureux de l'alliance qui nous a aidés, ce qui fait que la plupart des missiles ne sont pas arrivés en Israël. On espère que tout cela cessera bientôt. Elle n'a pas vraiment d'avis sur ce que son gouvernement devrait faire. D'après le dernier sondage de l'Université hébraïque de Jérusalem, 52% des Israéliens pensent que le pays devrait retenir le feu. Une toute petite majorité, les autres comme Gal, estiment qu'Israël doit répondre à la réponse de l'Iran.
Israël doit montrer que c'est un pays fort, que des attaques comme celle-ci ne peuvent pas passer sans réponse. Nous ne pouvons pas être le punching ball de tout le monde.
Le gouvernement israélien se serait engagé à prévenir les États-Unis avant de lancer une attaque. Reste à savoir quand, où et de quelle ampleur.
Alice Froussard à Jérusalem. L'Europe veut également se faire entendre dans l'affrontement entre Israël et l'Iran. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a convoqué cet après-midi à Bruxelles un conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Angélique Boin, l'Union européenne veut elle aussi éviter l'escalade tout en réfléchissant à de nouvelles sanctions contre le régime de Téhéran.
L'Iran a déjà été sanctionné par l'Union européenne pour son programme nucléaire, ses graves violations des droits de l'homme ou son aide militaire à la Syrie. Plus récemment, les Européens l'ont sanctionné en raison de son soutien à la Russie. Téhéran vend des drones utilisés par Moscou pour frapper l'Ukraine. L'Europe interdit l'exportation de certains composants électroniques qui servent à les fabriquer. Ces interdictions pourraient être élargies à d'autres matériaux et concerner également les missiles. La France et l'Allemagne notamment le réclamaient déjà. L'attaque de samedi pourrait faire basculer les pays réticents. Berlin plaide aussi pour durcir les sanctions qui visent les gardiens de la révolution. Mais pour que l'UE les inscrive sur la liste des entités terroristes, il faut d'abord qu'un tribunal de l'un des États membres les ait condamnés pour cela. À ce jour, ce n'est pas le cas. Au menu de leurs échanges, les 27 ministres discutent aussi du Liban. Il faut éviter toute escalade régionale qui pourrait entraîner un risque migratoire, précise un diplomate. La France plaide pour renforcer l'aide européenne à ce pays déjà fragilisé politiquement et économiquement.
Angélique Boin, correspondante à Bruxelles. Ensemble contre l'extrême droite, voilà le slogan d'un débat qui a réuni ce matin à Paris des syndicats européens. Côté français, il y avait la CGT, la CFDT, l'UNSA, présent également un syndicat italien et un syndicat allemand. France, Allemagne, Italie, trois pays confrontés à la poussée de l'extrême droite. En Italie, la droite radicale est même au pouvoir à Rome avec Giorgia Meloni. Wafia Kenich, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Les syndicats veulent combattre l'influence de l'extrême droite sur le lieu de travail, une influence qui pousse certains de leurs adhérents à voter pour ces partis.
Et l'extrême droite est au pouvoir ou sur le point d'y parvenir un peu partout en Europe. La perspective d'un score à deux chiffres pour ce mouvement aux européennes a fini de convaincre les syndicats. Ils ont donc organisé ces débats pour tenter de comprendre pourquoi ces partis connaissent ces succès électoraux et comment dissuader leurs adhérents tentés par ce vote. En Italie, Giorgia Meloni est élue, l'extrême droite est donc au pouvoir, avec des effets immédiats sur les salariés, d'après Maurizio Landini, secrétaire général de la CGIL, 5 millions d'adhérents. Ses propos sont traduits.
Il y a un appauvrissement, un véritable appauvrissement de la situation, de la condition des travailleurs et des travailleurs, parce que il y a une aussi attaque pour les conditions salariales et de précarité. Donc il y a une augmentation nette et une attaque contre les conventions collectives aussi, donc les salaires n'augmentent pas. En Italie, il y a 6 millions de travailleuses et travailleurs qui ne dépassent pas les 11 000 euros bruts de revenus annuels.
Il n'y a plus aucune relation entre le gouvernement et les syndicats, explique-t-il. Et ce mépris des corps intermédiaires est redouté aujourd'hui en France par Marie-Lise Léon, leader de la CFDT.
Depuis 2017, on appelle au gouvernement de partager le pouvoir. Dans une démocratie normale, apaisée, l'exécutif partage le pouvoir avec des contre-pouvoirs que sont les organisations syndicales. Je pense que c'est mauvais pour la démocratie sociale, mais c'est aussi dangereux pour la démocratie en général et ça contribue à la montée de l'extrême droite.
Les syndicats revendiquent d'être un rempart à l'extrême droite qui, à leurs yeux, ne défend pas les intérêts des salariés. Jasmine Faimi, présidente de la Confédération syndicale allemande, ses propos sont traduits.
Il faut dire clairement aux salariés en Allemagne et aux travailleurs que l'extrême droite est un mouvement qui est contraire à la dignité humaine, raciste et fasciste. L'extrême droite essaye de rentrer dans les institutions pour ensuite les détruire. Cet argument à lui seul ne suffit pas à convaincre beaucoup de collègues aujourd'hui. Et ils estiment que nous exagérons. Et donc beaucoup cherchent des réponses simples. Il s'agit aussi de démasquer ce qu'il y a derrière les idées d'extrême droite. Si on vote l'extrême droite, on vote pour supprimer ses propres droits.
Une catastrophe pour les salariés, disent-ils, mais aussi pour les employeurs, comme prévient Dominique Corona de l'UNSA.
Le problème économique du Front National, du Rassemblement National, c'est la perte de l'économie, c'est la perte de la croissance. Donc de toute façon, ils vont en pâtir aussi. Moins que les travailleurs, mais ils vont en pâtir aussi. Le repli sur soi-même en économie n'est pas la bonne solution. Donc moi, j'attends effectivement des employeurs qui soient plus allants sur le sujet et qui poussent et qu'ils sortent du bois. Il est nécessaire, il est indispensable qu'ils sortent du bois aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils vont arrêter d'être frileux et qu'ils vont effectivement même prendre le taureau par les cornes.
Chacun des syndicats présents souhaite renouveler l'expérience de ces débats lors de cette année électorale fondamentale. En Europe, en 2024, 12 pays votent pour désigner leur Premier ministre ou leur président.
Les syndicats face à l'extrême droite, un dossier préparé par Wafia Kenich. C'est une information du site La Lettre. Le milliardaire tchèque Daniel Křetínský envisagerait de vendre l'hebdomadaire Marianne, fondé par Jean-François Kahn à la fin des années 90. L'homme d'affaires en est le propriétaire depuis 2018 via son groupe de presse CMI France. Daniel Křetínský n'apprécierait pas la ligne souverainiste radicale de Natacha Polony, la directrice de la rédaction de Marianne, une ligne en contradiction avec son positionnement libéral et pro-européen. Bonsoir Adrien Toffolet.
Bonsoir Stanislas.
Depuis ces révélations, hier, la direction de CMI France laisse planer le flou, ce qui ne rassure pas les salariés du magazine.
Des salariés un peu sonnés, m'ont dit plusieurs d'entre eux, anxieux et inquiets, car les intentions de la direction de CMI France dévoilées hier dans la presse restent encore assez imprécises, voire contradictoires. Ni les salariés, ni la société des journalistes n'ont encore eu de contact avec Denis Oliven, le président du groupe média de Daniel Kretinsky. Denis Oliven, en revanche, a répondu aux questions du Figaro ce matin avec des propos que les salariés ne savent pas encore interpréter. D'un côté, il encense Natacha Polony, excellente patronne de Marianne, dit-il, qui a réussi à remettre le magazine sur les rails en étant très rigoureuse et intelligente sur son positionnement dans le paysage de la presse. Il loue même les bons chiffres de la nouvelle formule lancée il y a quelques semaines, avec des ventes et des abonnements en hausse après les 3 millions d'euros de pertes en 2023. Et puis de l'autre, il évoque un motif clair de rupture, un éloignement intellectuel entre le propriétaire et la ligne éditoriale de l'hebdomadaire.
Plus Natacha se rapproche de son lectorat et plus elle s'éloigne de Daniel, si j'ose dire. Parce que Daniel Kretinsky, il est pro-européen, il est pro-entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a un hiatus et Natacha a raison de pousser dans cette direction parce que c'est la direction de son journal.
Donc c'est avant.
Non. On va discuter avec elle de la manière de garantir son avenir, son indépendance, sa liberté.
Un positionnement difficilement compréhensible pour les salariés, d'autant que Denis Oliven répète que la doctrine de Daniel Kretinsky en matière de presse est la non-intervention. Deux options sont donc imaginables, me souffle un de ses journalistes. Le départ de Natacha Polony et la nomination d'un directeur adéquat, ou bien sa vente, les noms des milliardaires Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin, proches de la droite conservatrice et de l'extrême droite, ont circulé déjà. Côté Bolloré, on demande des discussions avec CMI France. Ça vaut ce que ça vaut, mais tant mieux, m'avoue un salarié inquiet par cette éventualité. Mais peu importe l'option, le risque de perdre l'identité du magazine est bien là.
Adrien Toffolet, merci. Hachette Livre licencie la patronne des éditions Fayard, Isabelle Saporta. Le numéro 1 français de l'édition invoque des différends stratégiques. Isabelle Saporta ne voulait pas que la marque Fayard soit cédée à Mazarine, une autre maison du groupe Hachette. Mazarine dirigée depuis février par Lise Bouel, l'éditrice des livres à succès d'Éric Zemmour. Rappelons que depuis la fin de l'année dernière, Hachette Livre est contrôlé par Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré. Nous partons en Malaisie pour terminer ce journal, un pays particulièrement éprouvé par le réchauffement climatique. La canicule a sévi au mois de mars et le phénomène El Niño a aggravé la sécheresse dans le nord du pays. Juliette Pietraszewski s'est rendue sur l'île malaisienne de Langkawi, une île touristique où vivent moins de 100 000 habitants, une population qui a appris à composer avec les pénuries d'eau. Reportage.
Dans son jardin et sous des températures assommantes en pleine journée, Nora Smina, habitante de Langkawi, ouvre son robinet.
L'arrivée d'eau est déjà coupée, il n'y en a plus. Et quand tu n'as pas de réservoir d'eau chez toi, tu n'as que ça. Parfois, c'est encore plus lent pour le débit.
Cette habitante, à la tête d'une grande famille, s'organise pour faire face à l'absence régulière d'eau courante.
Tous les jours, la lessive me coûte 10 ringgits. L'eau minérale par jour, je dirais que ça me coûte environ 15 ringgits. Vous voulez voir ma facture aussi ? Parce que je dois aussi payer ma facture d'eau.
Depuis seulement quelques semaines, cette habitante possède désormais une citerne dans son jardin. Objectif, stocker l'eau en cas de coupure. Le matériel lui a été donné par une association caritative.
Pour moi, c'est très cher. Vous savez, ici, les gens travaillent pour un salaire mensuel de 1500 ringgits parfois. C'est 300 euros. Comment peuvent-ils se payer ça ?
Les problèmes d'approvisionnement en eau touchent différents endroits de Langkawi. Cette autre habitante doit parfois payer 5 ringgits par jour pour se doucher dans un hôtel.
Depuis l'an dernier, si ma maison n'a pas d'eau pendant 2 ou 3 jours, je dois prendre un seau, du savon et une serviette et je pars me laver en passant par la compagnie des eaux. Il n'a pas plu ici depuis 9 mois et les tuyaux connaissent des fuites, donc on doit se débrouiller pour régler ce problème.
De son côté, le chercheur malaisien Mohamed Faiz, spécialiste des conséquences du réchauffement climatique sur l'eau, analyse l'évolution de la situation depuis plusieurs mois dans le pays et sur l'île de Langkawi.
Le problème de l'accès insuffisant à l'eau en Malaisie est amplifié à la fois par des phénomènes naturels comme El Niño qui modifie les régimes de précipitation et par d'importants défis infrastructurels. Le problème clé en matière d'infrastructure, c'est le niveau élevé d'eau non payante. La perte d'eau en moyenne s'élève entre 35 et 37%.
Et selon ce spécialiste malaisien, le temps presse alors que ces problématiques seront de plus en plus fréquentes à l'avenir.
Le reportage de Juliette Pietraszewski sur l'île de Langkawi en Malaisie. En France, la situation des nappes phréatiques est globalement satisfaisante grâce notamment aux pluies importantes de mars, mais pas partout car le Roussillon s'achemine vers un nouvel été de restriction des usages de l'eau après 2 années de sécheresse. D'une façon générale, 58% des points d'observation des nappes sont au-dessus des normales mensuelles, résume le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, dans son bulletin mensuel publié publiée aujourd'hui. Un mot du temps demain, il restera frais sur les trois quarts du pays. Les giboulées seront nombreuses sur un grand quart nord-est et la neige tombera à basse altitude sur les massifs montagneux. Le soleil s'imposera dans le sud-est. Demain matin, il fera entre 2 et 11 degrés en général avec un risque de faible gelée par endroit. L'après-midi, comptez entre 10 et 22 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, à la technique Lucas Finet.